Vous écoutez RMC. RMC.
Le vrai Tchouaméni, je pense qu'il a sa place en tant que titulaire au Real Madrid. Et je suis sûr. Enfin, je suis sûr. Non, je ne suis pas sûr, mais.
What, the best league in the world? Come on, the Premier League. Every single day.
Trois sélections, il vient du Diablo Vert, hop, trois sélections, il met deux buts. Pourquoi tu lui donnes pas sa chance? Ça te donne un arc, une possibilité supplémentaire.
Et Nico Paz, il a vraiment fumé comme une cigarette après avoir fait l'amour, si je peux me permettre.
20h-22h, Génération After.
Bonsoir à tous. Et oui, c'est parti pour les drôles de dames du lundi soir. En même temps, j'ai pas l'habitude d'être là. Deux heures de foot européen, c'est uniquement sur RMC et sur After Foot TV, bien sûr. Même si bon, aucun de vos matchs du week-end n'arrive à la cheville de Lyon-Rennes. C'est déjà que je pose les bases d'hier soir, mais c'est pas grave. J'ai pas la plume de Nico Jamin, c'est sûr. Donc, soyez indulgents sur les présentations. Une drôle de dame qui doit se battre contre la Deutsche Telekom, et pas l'équipe de vélo, je précise, qui a coupé ses lignes à Internet, mais qui va pas empêcher Polo Breitner de suivre un week-end de Bundesliga. Salut Polo!
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir tout le monde. Première remarque, on ne parle jamais de L1 de 20h à 22h.
Ouais, c'était juste, c'est juste pour vous titiller. Et je vois que t'es parti tout de suite. Une drôle voilà. De dame qui doit se battre pour garder son calme en ce moment, parce qu'on est début mai et la saison d'Arsenal, ça peut être le rêve ou le cauchemar absolu. Julien Laurent, salut Julien.
Salut mon Jean-Louis, salut à tous. J'ai senti un peu d'anxiété chez toi hein, au moment de prendre l'antenne là. T'étais pas.
Bon, ça va quand même.
Toi, la voix du foot français, tu stresses un peu.
Ça
hein.
Va, ça va. Ça devrait aller normalement. Une drôle de dame qui doit se battre pour vendre des sujets foot. Et oui, parce que là, il n'y a plus d'équipe en Ligue des Champions, il n'y a pas de Coupe du Monde, il y a le championnat qui est déjà plié. C'est
ah,
pas
mais lui
simple.
Reste des 0-0. Eh, bah oui, lui reste, il y a plein de 0-0 encore aujourd'hui.
Ou d'autres sports en Italie. Daniele Manuzia, salut Daniele.
Ciao, ciao, bonsoir à tout le monde. Vous savez, le foot, c'est pas que mettre des buts, hein. Ça c'est le football moderne.
Ah oui.
TikTok, la PlayStation.
Oh là là.
Ouais. Nous on aime les vrais football.
C'est vrai.
Les vrais 0-0.
C'est vrai. Donc
oui. Toutes les Bayern, semaines, tu nous vends tes 0-0.
Ah ouais. PSG Bayern, c'était horrible pour toi, j'imagine.
Non, beaucoup. Non, attends, moi j'ai rigolé.
On va en reparler. Une drôle de dame qui doit se battre contre les méchants rédacteurs en chef qui veulent toujours lui faire parler de Mbappé alors qu'il préfère parler d'Alavet ou du Rayo Vallecano. Edgar Grollo, salut Edgar.
Salut Jean-Louis, salut tout le monde. T'as très bien commencé Jean-Louis parce que tu oui. T'es déjà fait gronder par Polo, donc c'est que t'es bien intégré déjà.
Ça fait 15 ans que ça dure, hein, donc ça va, je suis habitué. Hein. Alors ce soir Edgar, on va parler des deux. Et de Mbappé et d'Alaves. On
mais
y
oui.
Va pour votre programme, votre sommaire. Edgar, vas-y.
Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses à Madrid avec côté Real, Kylian Mbappé qui fait grincer des dents encore une fois, notamment à cause de sa fameuse virée en Italie ce week-end. Je pense que Daniele était dans le coup. À Madrid, l'actu, c'est surtout l'Atlético qui compte sur la fraîcheur de ses joueurs. On en parlera pour sortir Arsenal. Sinon, on ira à Villarreal. On essaiera de comprendre comment, pourquoi l'entraîneur Marcelino va quitter le club à la fin de la saison. Et puis aujourd'hui, je dédie une minute à l'équipe dont on a le moins parlé cette saison, c'est Alaves.
Très bien, Daniele pour l'Italie.
Alors l'Inter, elle a officiellement gagné le championnat, donc on va voir qu'est-ce qu'il faut retenir de cette 21e Scudetto pour l'équipe de Milan et qui vous il gagne de en gros à sa première année sur les bancs d'une équipe à partir du mois d'août. On va parler après de la Juventus qui s'est auto-sabotée en faisant match nul à domicile contre une équipe déjà reléguée, et on va parler de peut-être de je sais pas, j'ai un peu peur à le dire parce qu'il a beaucoup de gens qui l'aiment, mais peut-être les pires entraîneurs de la Serie A, Allegri, peut-être pas, je sais pas.
Peut-être oui. Le programme du soir en Angleterre, Julien.
Alors on va parler d'Arsenal aussi pour suivre ce qu'a dit Edgar tout à l'heure avant le match de demain soir contre l'Atlético. On va revenir sur le grand choc du week-end en Angleterre, c'est le derby entre Liverpool et Manchester United à Old Trafford. On va parler de Bournemouth aussi qui pourrait être la vraie belle surprise, elle l'est déjà, mais encore plus de cette saison et de cette fin de saison. Et puis on aura une minute sur les promus et ce qui se passe en Championship. Et puis je voulais aussi dire que la semaine dernière j'étais invité par le lycée français de Londres, le lycée français Charles de Gaulle de Londres. Ils avaient leur semaine olympique et paralympique pour tous leurs jeunes étudiants. Ils ont fait venir plein d'interlocuteurs, plein d'invités, c'était vraiment génial. Et j'en ai fait un petit peu partie, donc voilà, je voulais leur passer un coucou parce que beaucoup sont en train d'écouter l'émission, dont Raphaël et son papa Jérôme. Donc voilà.
D'accord, très bien. Polo, le programme, une dédicace peut-être aussi.
Bah, un lycée qui s'appelle Charles de Gaulle, j'y vais pas. Bon, deux matchs à 6 points pour la Ligue des Champions ce week-end. Leverkusen, Leipzig et Hoffenheim contre Stuttgart. Trois équipes à 58 points. Qui va tirer le pompon pour la prochaine Ligue des Champions? On va aller en fin de classement puisque Sampaoli a malheureusement perdu lors de cette 32e journée le match qu'il ne fallait pas perdre contre Mayence. Là aussi, plus que trois équipes pour être barragistes. On va s'arrêter un petit peu à ça. Et puis, évidemment, on aura une minute un petit peu spéciale avec de la musique que je n'ai jamais mise jusqu'à maintenant.
Parfait, ça donne envie. Alors, on va commencer en vous en discutez tous de PSG-Bayern, du match aller de la semaine dernière. Mais juste avant cela, les drôles de dames sont là jusqu'à 22h. Et après, c'est la Ligue 1. Pas le débrief de Lyon-Rennes, ça c'était hier. Mais l'after avec Gilbert Bribois. Salut Gilbert.
Salut à tous. Ligue 1 et Coupe d'Europe quand même. Parce que, évidemment, on est sur une semaine historique qui pourrait envoyer deux clubs français en finale de Coupe d'Europe. C'est quand même pas tous les ans. Donc profitons-en et espérons que ça fonctionne. La Ligue 1 avec l'OM qui s'effondre tout à l'heure. Qui sont les principaux responsables? On débattra ensemble. Daniel Riello qui sera là veut nous parler d'une saison de Ligue 1 complètement folle. Selon lui, il nous expliquera pourquoi. Derrière, on parlera donc de Luis Enrique et de ce qu'il doit faire mercredi pour éliminer le Bayern. Un mot sur Strasbourg également, évidemment, qui vit une semaine historique. Et puis les infos sur le Paris FC. Bref, beaucoup de Ligue 1 et de Coupe d'Europe à partir de 22h pour démarrer cette semaine historique.
Parfait, merci Gilbert.
Je l'ai dit assez historique.
Ouais, mais ce sera un peu plus qu'un mot sur Strasbourg. Mais bon, rendez-vous tout à l'heure à 22h.
Ça vaut le coup, de toute façon.
Bien
toujours,
sûr. Plus qu'un mot. Alors pour commencer ce lundi soir, les drôles de dames, avant de débriefer vraiment ce qui s'est passé dans vos championnats respectifs, j'aimerais quand même que vous me parliez de la façon dont vos pays de foot ont perçu ce PSG-Bayern de la semaine dernière, match de l'année, œuvre d'art, consécration de deux idées du foot moderne. On a entendu un peu tout ça en France. Et chez vous alors, c'était quoi les débats? Qu'est-ce qui en a découlé? Julien, peut-être en Angleterre pour commencer.
Ouais, on en avait déjà parlé un soir avec Daniel, Gilbert et Walid, je crois, qui était là aussi, ou Flo. Moi, j'ai eu des réactions assez marrantes. Par exemple, Kenny Cunningham, que vous connaissez peut-être pas, que pas beaucoup d'auditeurs, je pense, connaissent, qui a été un bon joueur de Premier League et de Championship, mais pas rien d'extraordinaire, mais qui lui, par exemple, il est maintenant consultant à la télévision irlandaise, nous a quand même sorti que la finale de Ligue des Champions 2003, donc rappelez-vous, même Daniele s'était endormi ce jour-là entre la Juve et le Milan, qui avait fini à 0-0, tir au but, etc. Je sais pas si vous vous rappelez,
ouais, très fort. Bien sûr, on a envie de l'oublier, mais oui.
Voilà, bah, que lui avait préféré ça au match de la semaine dernière entre le PSG et le Bayern. Et on a eu vraiment les deux façons de penser, les deux styles qui se sont opposés. Certains qui eux ont dit c'était le match du siècle, c'était incroyable. On a beaucoup posé la question aux entraîneurs de Première Ligue, notamment Mikel Arteta la semaine dernière, donc avant leur match du week-end, sur est-ce que les grands clubs anglais pourraient un jour jouer comme ça, est-ce qu'on a on a besoin de faire venir un Luis Enrique ou quelqu'un pareil pour avoir ce genre de football chez nous. La réponse de Mikel Arteta, qui a surpris personne finalement, il a dit bah oui, mais quand vous avez un championnat aussi difficile, aussi intense que la Première Ligue pendant toute la saison, c'est compliqué, parce que pour jouer comme l'ont fait le Bayern et le PSG, ce qui est vrai dans un sens, il faut aussi faire tourner, faire reposer ses stars.
Et les Anglais ont beaucoup. Mais pendant des années, on entendait l'argument inverse, en disant justement les championnats nationaux préparent pas assez ses équipes aux grands matchs intenses de Ligue des Champions.
Tout à fait. Ah oui. Et donc c'est intéressant de voir effectivement cette évolution-là. Je pense qu'Arteta a raison dans un sens aussi, ce qui est vrai. Mmh, ouais. D'ailleurs, les Anglais ont beaucoup montré les statistiques, par exemple des joueurs d'Arsenal qui avaient le plus joué en championnat cette saison, et des joueurs du PSG, du Bayern, mais surtout du PSG ceux qui avaient le plus joué cette saison. Et tu te rends compte qu'il y a quand même des trucs incroyables. Tu vois qu'un remplaçant d'Arsenal a joué plus de minutes en championnat que Ousmane Dembélé, par exemple, en championnat pour le PSG. Donc forcément que à ce niveau-là, il y avait pas de match, quoi, pas de compétition.
Ça c'est sûr. Et en Italie, on en a dit quoi de ce match?
Mais un peu.
Ça intéressait.
Oui, moi je rigolais tout à l'heure, mais il y a eu ce genre de discours-là, c'est-à-dire c'est pas d'ouvrir football, on a ressorti toutes les déclarations de Mourinho quand il a dit que 5-4 c'est plutôt un match de hockey. Il y a aussi un changement un peu dans l'opinion publique, c'est-à-dire par exemple sur les plateaux de Sky Sport, Fabio Caressa, c'est un des plus importants commentateurs et chroniques aussi de football, il a dit il faut qu'on change, il faut qu'on regarde ça et qu'on aspire à devenir ça. Milan Juventus qui avait eu semaine d'avant. C'était donc frappant la confrontation entre les deux matchs. Il a dit c'est nul, ça c'est pas la façon de jouer. Et c'est vrai, on part d'un football italien qui a du mal à se vendre à l'étranger. On essaye toutes les choses, on va jouer, on essaye d'organiser des matchs à perte en Australie. Et après, il faut peut-être mettre un peu de spectacle là-dedans. Il y a Allegri, par exemple, qui a dit... Après, on a cherché des explications aussi. On s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi à l'étranger, le football, c'est ça, et chez nous, c'est autre chose? Allegri, il a dit, bah, c'est simple. En fait, en Serie A, la balle, elle est en jeu 20 secondes. En deuxième division italienne, 40 secondes. Il a dit, en troisième division, 20 secondes. En deuxième, 40. En Serie A, 1 minute et demie. Des numéros qu'il a sortis comme ça, de son chapeau. En Champions League... Même 3 minutes. Alors moi, je suis allé regarder les minutes effectives des Milan, la balle en jeu dans les matchs des Milan, c'est les mêmes minutes en jeu de, par exemple, Manchester City en Premier League. Donc c'est pas la question de le temps que la balle elle est en jeu, mais qu'est-ce qui est tout fait dans ces temps-là. Ah oui. On s'ennuie avec les Milan parce que la balle elle circule lorsque Manchester City percute. Donc on a parlé de ça. Il y a eu des fausses solutions comme celle d'Allegri. Il y a eu des mauvais entraîneurs comme Colantono, c'est un entraîneur d'Atalanta, Salernitana, des bas niveaux, qui a dit c'était un match qui les puristes, on les appelle comme ça en Italie, ils ont pas aimé. Il a dit que si on amène ces matchs-là à Coverciano, que c'est le siège des entraîneurs italiens de la fédération italienne, il y a pas beaucoup de choses à montrer pour apprendre le football.
Oui, donc ça montre bien à quel point l'Italie va dans le mur.
C'est une partie de l'Italie, on n'est pas tous comme ça, et il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne sont pas d'accord sur ces discours-là. Spalletti aussi, il a dit, il faut qu'on comprenne que le football est à un autre rythme au niveau européen, il faut qu'on prenne plus de risques, il faut qu'on change des cultures. Donc ça dépend, mais il y a beaucoup ces discours-là. Moi, ce qui me choque, c'est que ces discours-là le font beaucoup de supporters. Ça, franchement, ça me choque. Parce que je comprends des entraîneurs, je comprends des dirigeants, mais les supporters, mais quel intérêt? Quel intérêt comment ils peuvent penser que pour gagner, il faut faire des 0-0, il faut pourrir les jeux, il faut pas avoir de spectacle, que le spectacle est l'ennemi de la victoire. Ça, c'est quelque chose qui est rentré dans la tête de beaucoup de supporters italiens et je comprends pas vraiment pourquoi.
En Espagne, Edgar, on en a dit quoi?
Écoute, le match a été admiré, très apprécié. Je pense que tout le monde a adoré et que ça collait aussi avec la culture ici où on aime voir du beau jeu, des beaux buts, du spectacle et un football offensif. Après, bon, c'est comme dirait l'autre, c'est le goût et les couleurs et certains ont préféré d'autres grands matchs dans l'histoire. Et d'ailleurs, je pense que certains n'ont pas compris la question qui était de se dire est-ce que c'était la meilleure opposition de l'histoire ou l'une des meilleures oppositions, parce que certains nommaient des matchs où ça avait été plutôt des récitals. Par exemple, il y avait un grand journaliste sur la Copé qui disait non, la finale de l'Euro 2012 quand l'Espagne étrit l'Italie, c'était un plus grand match. Bon, c'est pas vraiment ça la question, mais une fois que tout le monde s'est dit le match est incroyable, tout le monde s'est regardé, s'est dit mais ok, est-ce qu'aujourd'hui il y a des équipes espagnoles qui sont capables de faire ça? Pour les médias madridaines, le constat était extrêmement simple. Le Real Madrid par exemple, il y a des années-lumière de pouvoir participer à un match comme ça. On l'a vu, ils ont rivalisé à certains moments avec le Bayern Munich au tour d'avant, mais on a du mal à imaginer le Real Madrid participer à un spectacle de football comme ça aujourd'hui. Le Barça, pour le coup, on a un peu plus de facilité à les imaginer là, même si on sait qu'ils ont des failles et qu'ils sont peut-être pas aussi aboutis que ces deux équipes-là. Et l'Atlético, c'est encore autre chose, c'est encore un autre style. Donc il y avait vraiment une introspection, j'ai envie de dire, en Espagne, de se dire c'est quand même embêtant que beaucoup ont plus hâte de voir le match retour Bayern-PSG que Arsenal-Atlético où il y a une équipe espagnole.
Polo, t'as beaucoup parlé aussi des médias allemands la semaine dernière autour de la rencontre. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué aussi dans les jours qui ont suivi?
Alors moi déjà je comprends tous ces débats, mais c'est sans doute aussi le privilège de l'âge, c'est-à-dire l'évolution du football. Et par contre je n'arrive pas à comprendre beaucoup de ces anciens champions qui de toute façon parlent souvent à l'aune de leur propre gloire, qui font des faux débats. Ce qui s'est passé la semaine dernière peut-être, je dis bien peut-être, je suis pas voyant, préfigurer ce que sera le football de demain. Moi, ce qui m'a frappé dans cette rencontre, c'est pas le 5-4, des 5-4, il y en a déjà eu dans l'histoire du foot, hein, l'accord avec PSG, etc., il y a eu plein de choses comme ça.
c'est la qualité technique des joueurs. C'est-à-dire que lorsqu'on attaque les défenseurs aujourd'hui, et je pense à Michel Platini, qui dit logiquement, à mon époque, la défense était considérée comme un art. Mais quels sont, une fois de plus, les grands perdants du football des 25-30 dernières années à l'aune du spectacle qu'on veut proposer. Ben, ce sont les défenseurs, justement. Donc moi, si tu veux, je veux bien qu'on critique Stanisic, je veux bien, parce qu'il a souffert contre Gvara, je veux bien qu'on critique Mendes, parce qu'il a souffert face à Olise. Mais quand on commence à me dire qu'Upamecano est une bille, que la défense centrale du PSG, c'est des tocards, alors que les mecs, pendant toute la saison, ils sont exceptionnels, je trouve que c'est un petit peu fort de café. Il s'est passé un truc extraordinaire, mais je pense qu'on le prend même... Mais en plus, tu vois, Platini il m'énerve parce qu'à chaque fois qu'il sort une phrase, il te parle du temps passé et il oublie qu'il a été président de la République, donc je sais bien, responsable mais pas coupable. Il est aussi responsable que les autres, sinon plus, de toute l'évolution du football moderne qu'on a vu.
Ensuite. Moi, Poulain, attends, et tu vas finir, mais moi, je suis quand même parfaitement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il parle du 5-4 comme s'il n'y avait que des erreurs défensives. Or, pour moi, c'est la victoire de l'attaque qui a fait que les défenseurs ont été en difficulté.
Exactement. Quand on voit la qualité technique des joueurs, des buts. Vous avez le but de Gvara. En Allemagne, il y a eu ce débat ou faux débat parce que ça s'est arrêté très rapidement. Manuel Neuer n'a eu aucune occasion, n'a pas pu arrêter un seul but. Mais t'as vu les tirs? Comment tu veux? Gvara, t'as vu le tir qu'il met, Gvara, dans le petit filet? Quand Dembélé fait la même chose, il touche même le poteau, c'est-à-dire que ça sort, c'est la même, ils peuvent rien faire. Donc, moi, toutes ces choses-là, c'est compliqué, de ça. Et ce sont les grands perdants, ce sont les défenseurs. Par contre, ce qui est vrai, il y a un autre débat qui est arrivé en Allemagne, qui n'existait pas et qui pareil est un, c'est pas un faux débat mais c'est un débat, on ne peut pas dire du jour au lendemain que la défense du Bayern est devenue nulle alors qu'elle a été excellente pendant toute la saison, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé cette saison de l'offensive du Bayern, le fait de marquer un nombre de buts incalculable, etc. Mais ce qui est important, c'est que Vincent Kompany avait trouvé un équilibre. Le goal average du Bayern, c'est plus 81. Donc ça veut dire que c'était la meilleure défense de Bundesliga, c'était l'une des meilleures défenses aussi en phase régulière de Ligue des Champions. Et tu as, depuis quelques journées de Bundesliga, en faisant tourner son effectif, le sentiment que c'est un petit peu plus fragile. Donc c'est un débat actuel qui vient d'arriver, mais qui n'existait pas pendant les 8 premiers mois de l'année. Donc toutes ces choses-là me semblent complexes. Par contre, moi je reviens sur ce que j'ai dit après la rencontre de mardi, et j'étais époustouflé comme tout le monde. Si le football de demain c'est ça, va vraiment falloir qu'on trouve d'autres grilles d'analyse, parce que tout ce qu'on a connu n'existe plus. C'est-à-dire que ça va être très très compliqué d'analyser ce genre de rencontre.
Oui, la question que c'est, est-ce que c'est une tendance globale ou est-ce que c'est juste là magnifié par les deux meilleures équipes d'Europe? Donc,
le titre de kicker ce lundi, c'est le sens du jeu. C'est-à-dire le sens du jeu, tu peux remplacer le mot jeu par le sens de l'histoire. C'est ce qui risque d'arriver, c'est ce qu'on veut pour le spectacle. J'ai même vu des gens sur les réseaux sociaux qui passaient leur temps à dire mais ce qu'on a vu c'est génial, c'est comme quand on était à l'école à 10 ans et que on jouait entre les cages de handball et on gagnait 19 ou 18, etc. Non, ça pose d'autres types de questions. Le rôle des gardiens, le rôle des centraux, le rôle des défenseurs au sens large. Peut-être que demain, il y a quelqu'un qui va nous mettre 8 joueurs offensifs sur le terrain sur les 10 jours de champ, parce qu'on considère que le foot va évoluer comme ça. Je le dis d'autant plus que je finis avec ça. Je finis avec ça, c'est que 24 heures avant la rencontre, je sais pas pourquoi, je me suis tapé un documentaire du Brésil des années 80. Donc Socrates, Falcao, Zico, etc. Celui qui peut m'expliquer les différents... Moi, je préfère toujours la plus grande équipe du Brésil que j'ai vue de ma vie, c'était celle des années 80. Mais à l'époque, il n'y avait pas de pressing, les mecs couraient pas, on laissait faire tout ce qu'on voulait aux joueurs, les numéro 10, on savait ce que ça voulait dire. Donc, c'est autre chose. Mais on peut pas l'analyser avec des vieilles grilles de lecture. Et encore une fois, moi, je dis chapeau à Dembélé, je dis chapeau à Kane sur son ouverture sur Luis Diaz, je dis chapeau à Olise quand il enrhume Mendes, etc. Ça, c'est un truc qui n'a pas été analysé. Et ça ne m'étonne pas que des grands champions critiquent ça, parce qu'ils passent leur temps à juger l'autre en fonction de leur propre gloire. Et ça, c'est un vrai problème.
Jean-Louis, ça me fait,
vas-y Edgar,
ça me fait penser dans l'analyse de ce match et beaucoup des choses qu'on a entendues, notamment sur la critique des défenseurs. Ça me fait penser parfois à la NBA et au débat qu'il y a en NBA où, bon, oui, des fois t'as des mecs peut-être qui ils défendent pas assez ou ils défendent pas assez bien ou je ne sais quoi. Mais il y a surtout quelque chose qui est l'évolution de la qualité offensive des joueurs. Et aujourd'hui, t'avais une telle technique, une telle vivacité de la part des attaquants sur ce match-là qu'au bout d'un moment, t'en arrives à un stade et à un niveau niveau de football où tu dis mais les défenseurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur certaines actions et les gardiens qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur certaines actions. Il y a aussi une part de réalité là-dedans et c'est surtout c'est souvent l'un des problèmes qui est en NBA où t'as les gars qui sont devenus tellement forts par rapport à il y a 30, 40 ans que parfois c'est tout simplement très très difficile de défendre sur ça.
Daniele.
Et oui, non, je voulais juste ajouter qu'en Italie, on a parlé beaucoup de but de Luis Diaz pour la ligne des défenses de PSG. Il disait, bah, elle était pas mise, elle était trop. Et le but de Olise pour Safonov. Ils disent, il aurait pu attendre à CGT. Donc, ils vont regarder dans les détails. Mais je pense que c'est des lectures partielles. Parce que, par exemple, il y a eu des bonnes lectures défensives. Par exemple, il y a une action où Upamecano.
Oui, il
arrête Dembélé.
Dembélé, oui.
Oui, voilà. Donc, voilà. Pourquoi on parle pas de ça? Plutôt que... Et après, je voulais ajouter l'expérience italienne dans la tactique du jeu. Je pense que c'est important. C'est un match où c'était très important les marquages individuels. C'est-à-dire, c'était des défenses orientées sur l'homme. Même les buts, par exemple, de Luis Diaz, la ligne des défenses du PSG, elle est haute, mais elle n'est pas en ligne parce qu'il y en a. Il y a Pacho qui sort.
Oui.
Qui sort par exemple entre les lignes sur l'Olysée, je me souviens pas qui, Marquinhos qui
mais de toute façon c'est la clé du spectacle de ce match, c'est qu'il y a eu du 1 contre 1 partout assumé par les deux entraîneurs.
Justement, mais en Italie, moi je pense on a vu la pire saison de l'histoire aussi parce que toutes les équipes marquent individuellement. Je pense que il va revenir à la mode la défense à zone, c'est-à-dire avec la référence sur l'espace. Ça peut être un autre changement de football.
En tout cas, ça va être intéressant de surveiller l'après donc PSG Bayern et s'il y a des grandes tendances qui évoluent dans le jeu. Revenons à ce week-end et donc au Bayern Polo qui a fait tourner un peu le même scénario que sur le match précédent qu'ils avaient gagné. Là, ils sont allés arracher un match nul en fin de match contre Heidenheim.
Heidenheim ne veut pas défendre, donc ils s'arrachent, c'est un petit peu logique, ils vont mieux en fin de saison. Par contre, le Bayern, là, a franchement, sur certaines phases de jeu, pas été exceptionnel, mais c'est toujours délicat de lorsque tu sors d'un match comme ça du PSG, de se dire, on va corriger ce qui ne va pas, et ce match a été extrêmement compliqué pour le Bayern, qui, lorsqu'on les voit revenir à 2-2, on se dit, ça va être fait, ça va rentrer, en plus, c'était une équipe qui a ont appris, mais etc. Vincent Kompany avait dit, mais non, de toute façon, j'avais prévu à la 45 minutes de faire rentrer mes attaquants, etc. Le problème, c'est qu'ils s'en prennent un troisième, qui est surprenant. On trouvait ça génial en Allemagne, évidemment, parce que Heidenheim revenait dans la lutte pour la 16e place. Et puis, évidemment, Olise nous a sorti une frappe miraculeuse à la 100e minute pour le 3-3. Ce qui fait dire, encore une fois, qu'en Allemagne, qui est ce Bayern, ne veut pas perdre. Et c'est pour ça que c'est une équipe, je le disais depuis la dernière fois, qui, cette année, il y a une forme de sympathie autour de ce Bayern-là qui ne veut jamais perdre. C'est-à-dire qu'ils sont menés 5-2 à Paris et ils finissent à 5-4. Et Daniele a dit quelque chose de très important. Là où on peut critiquer le Bayern, c'est que lorsqu'il y a 5-4, finalement, on s'en sort pas si mal que ça. Est-ce que tu as besoin d'aller chercher le 5-5 et de jouer en 1 contre 1 alors que le PSG n'attend que ça pour contrer durant les arrêts de jeu notamment? Je sais pas si tu te souviens, Jean-Louis, tu étais au stade.
Ouais.
C'est super dangereux. Ouais, c'est-à-dire que s'il y a un 6-4 pour une raison XY, c'est pas du tout la même philosophie que tu dois avoir au retour. Donc c'est des choses comme ça. En fait, par rapport à cette rencontre qui, encore une fois, a enthousiasmé le foot allemand ce week-end et notamment samedi, qui était assez génialissime parce qu'on a eu des retournements de situation un petit peu partout. Il y a quand même ce débat aujourd'hui, et moi je mets en garde ce qui vient de se passer depuis quelques journées et quelques semaines au Bayern, c'est que ça me rappelle quand même beaucoup 2015, où le Bayern de Guardiola se baladait en Bundesliga, se baladait en Ligue des Champions, et ils ont commencé à perdre à Leverkusen, ils ont commencé à perdre contre le Real, ils ont commencé à perdre par la suite, et ils ont enchaîné 4 défaites de suite, qui me font un petit peu peur, comme quoi tout s'était déréglé d'un seul coup. Et il faut faire attention à ça. Voilà.
Bah écoute, ce sera bien sûr à surveiller. Il n'y a pas d'infos, infirmerie, blessé de dernière minute.
Il y a plutôt des bonnes nouvelles.
Le retour de Lennart
Kahn. Bischoff, on l'a vu, évidemment. Il y a aussi, Guerrero qui est revenu aussi à l'entraînement. On verra ce que ça va donner. Mais logiquement, ce n'est pas sur eux non plus qu'on attend le décisif. La vraie question,
c'est vrai.
Que Moussiala sera à 100%.
Et de toute façon, mais si c'est Lennart Kahn qui rentre à la place de Moussiala pour les 20 dernières minutes, ça change aussi quelque chose par rapport à
ça peut surtout faire très très mal que il est extraordinaire. Bon, il est jeune évidemment, très plein d'expérience, etc. Mais c'est assez impressionnant.
On aura le temps d'en reparler bien sûr demain, mercredi, pour donc ce Bayern PSG demi-finale retour de Ligue des Champions. La première minute du soir, on va en Espagne.
siendo solo una idea, una interrogación. Y en mi mente encontró suelo firme, tierra, lluvia y calor.
Ça n'a commencé par n'être qu'une idée, une interrogation. Dans mon esprit, cela a trouvé un terrain solide. Voilà, les amis, vu que Jean-Louis n'est pas là d'habitude, j'essaie de lui faire croire que je mets toujours des chansons un peu poétiques comme ça et pas du reggaeton.
Elle est
cette
pas
chanson,
mal,
c'est du... Voilà, c'est, voilà, là ça te plaît, Polo. Là ça te
c'est
plaît.
La, je crois que c'est la meilleure que tu as mise depuis le début.
Mais écoute, c'est El Miedo, la peur de Mikel Izal. Et justement, ses paroles et le titre de la chanson me faisaient un petit peu penser à la situation d'Alavés qui est 17ème. Et pour eux, la zone de relégation paraissait un peu lointaine. C'était qu'une idée pendant un moment. Et puis finalement, le danger est devenu de plus en plus concret. Je voulais dédier cette minute à Alavés qui est l'équipe, je pense, dont j'ai le moins parler cette saison. On a raconté leur remontada contre le Celta Vigo récemment, mais c'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas été la plus passionnante de la saison. Il y a eu très peu de grands moments, que deux victoires face à une équipe du top 7 et globalement une équipe très moyenne. 12e attaque, 16e défense, 13e à domicile, 16e à l'extérieur. J'ai regardé entre la 5e et la 34e journée de la saison, donc c'est-à-dire quasiment toute la saison, Alavés a passé une journée dans les places européennes et une journée en zone de relégation. Donc ça veut dire que tout le reste, on était vraiment au milieu du ventre mou. Mais le problème pour eux, c'est qu'ils auraient pu tranquillement jouer toute la saison dans ce ventre mou, mais ils ont commencé à glisser doucement, doucement vers le bas. Ils perdent une place par-ci, une place par-là, et ils sont juste à côté de cette zone de relégation. Si Séville gagne ce soir, ils peuvent même les envoyer dans cette zone de relégation. Donc ça devient une équipe qui joue vraiment quelque chose. Malheureusement pour eux, c'est leur peau. Ils jouent leur peau, ils jouent le maintien. Et malheureusement pour eux, surtout, ça se passe mal depuis qu'il y a un enjeu. Deux victoires sur les 12 derniers matchs. Alavés a changé d'entraîneur il y a quelques semaines pour amener Kike Sanchez Flores, mais c'est pas encore sûr que ça leur suffise pour se maintenir.
Eh ben merci Edgar, m'avoir donné des nouvelles d'Alavés. Je les avais laissés à la finale de la Coupe de l'UEFA 2001. Donc l'incroyable finale contre Liverpool.
Ça date un petit peu.
Voilà.
Pour ça t'as bien fait de venir. Hein,
voilà. Ah ouais, merci. Non, mais je plaisante. Mais bon, quand même, finale de légende. Hein. Julien, tu t'en rappelles?
Oui, bien sûr. 5-4.
5-4, exactement, pour Liverpool. Contre Alavés, à l'époque, ils faisaient la finale de Coupe d'Europe.
Le banc, bien sûr.
Exactement. Bah, c'est l'année où ils gagnent tous les trophées.
Les cinq trophées.
17ème à Alavés, Séville 18ème, 34 points. Et Séville qui joue ce soir.
Très bien. Dans une seconde, que faut-il retenir du titre de l'Inter? Daniele va tout nous dire. Et puis Julien est content, il a vu un choc à l'ancienne entre Manchester United et Liverpool. À tout de suite.
20h-22h, Génération After.
Jean-Louis Tour.
20h31 sur RMC, sur After Foot TV, avec Edgar Grollo, Polo Breitner, Daniele Manoussia et Julien Laurence, les drôles de dames du lundi. Juste avant 21h, on parlera des vacances de Kylian Mbappé, qui crispe l'Espagne. Mais avant cela,
oh là là.
Le choc entre Manchester United et Liverpool, et encore avant le titre pour l'Inter en Italie, Daniele. Donc 21e sac de l'histoire, le deuxième en 3 ans, l'Inter qui reprend sa couronne. Qu'est-ce qu'on va en retenir de cette saison de l'Inter?
Alors, avant tout, que c'était pas facile. Il faut rappeler que après le Covid, donc 2020, aucune équipe italienne n'est arrivée à gagner deux fois de suite le championnat. Donc, ça montre que c'est difficile de rester en tête. L'Inter l'année dernière a eu la compétition de Naples. Naples, ils avaient mis les gros moyens cet été avec les mercato qu'on s'en souvient, mais après il y a eu beaucoup de blessures. Donc, l'Inter, elle a fini pour dominer. C'est un championnat que finalement elle va finir pour gagner avec plus de points que Naples l'année dernière. Elle a les meilleures stats en Italie sur beaucoup de choses, sur l'XG, sur les frappes après avoir récupéré la balle dans la surface adverse. C'est l'équipe qui a marqué les plus de buts sur coup franc ou sur corner, ouais. 19, même plus qu'en Première Ligue où ils ont presque limite en train de changer les règles du jeu pour marquer des corners. Donc pour le moment elle a marqué 82 buts, 23 plus de la deuxième équipe italienne, Como. Donc c'est des belles stats, mais c'était pas facile parce que ça suffit de se souvenir du mois de janvier où juste après la défaite avec Bodo dans les matchs d'aller, ils vont jouer contre Pise. ils perdent 2-0 au bout de 20 minutes. Et là, on se dit, peut-être la saison de l'Inter, elle va changer. Et là, il est sorti les caractères. Il est sorti les caractères. Il est aussi rentré sur le terrain de Di Marco, qui il avait gardé sur les bancs pour le faire reposer. Il est sorti les caractères de l'Inter. Ils ont gagné 6-2 ces matchs-là. Encore une fois, le mois de mars, il y a eu un autre moment. Ils ont perdu le deuxième derby contre Milan. Ils vont jouer contre l'Atalanta, ils font match nul. Ils font match nul contre la Fiorentina. Et on s'est dit, là, encore une fois, le Naples, ils vont revenir dans l'esprit. Mais non, parce qu'en fait, c'est là qu'encore une fois, l'Inter, elle a gagné des matchs très importants contre Como et Rome. Il faut ajouter le troisième match le plus important de la saison contre Como en Coupe d'Italie. Donc, il a vraiment fallu sortir un gros, gros caractère. Et ça, je le souligne, même si moi, j'ai pas beaucoup aimé la saison de l'Inter. Mais c'est vrai qu'au début de la saison, on se disait, c'était une équipe morte. En finale, avec le PSG.
Ouais, 5-0. Fin de cycle, etc., ouais.
Oui, voilà, fin de cycle, Lautaro, il était énervé, Çalhanoğlu voulait partir, Dumfries, il voulait partir, c'était fini. Mais en fait, non, là, on est en train de dire, peut-être que cette équipe, elle a encore quelque chose à donner. Certains joueurs comme Çalhanoğlu, il ferait bien de rester. Il faut peut-être relancer.
Là, ça ne va pas être la grande révolution, c'est ça que tu es en train de nous dire cet été.
On ne sait pas. Ça, c'est un moment où les journaux, ils parlent, et quand les journaux italiens, ils parlent comme ça, c'est parce que, à l'oreille, il y a eu quelques petites voix qui leur est arrivée, que l'Inter, elle va essayer de garder Çalhanoğlu, essayer de garder Dumfries, parce que le Luis Enrique, il a pas trop bien marché, Diouf aussi, ils savent pas quoi bien en faire. Bastoni, il pourrait partir Bastoni parce que le climat autour de Bastoni, il a beaucoup changé après l'affaire Kalulu. Donc, et si c'est vrai que le Barcelone, il veut sortir 60 millions, c'est peut-être aussi le cas de faire un beau paquet cadeau de Bastoni, parce que je pense 60 millions, ça, c'est quand même un peu aussi hors de, comment dire, c'est pas ordinaire pour Bastoni. Mais on le sait pas, parce que effectivement c'est une équipe vieille qui fait toujours les mêmes jeux, qui arrive à être dominant en Italie, même les matchs contre Como et la Roma, la supériorité technique.
Ouais. Mais ça ressemble un peu à un champion par défaut. Parce que on parle du niveau de la Serie A, quand tu vois qu'ils sont sortis en Ligue des Champions comme ça, bon, bah, t'as un doute sur le vrai niveau de cette équipe, non?
Moi, je pense que c'est pas la question du niveau de la Serie A, parce que je pense aussi que c'est l'Inter, elle avait rencontré une équipe moins, c'était vraiment un adversaire difficile, Bodo. On l'a vu aussi après avec Sporting, c'était pas une équipe, qui était là par hasard. Et c'est un moment difficile pour l'Inter. Je pense que si elle avait passé cet obstacle, elle aurait montré plus de qualités.
Ah,
après, c'est vrai que dans les championnats, à chaque fois que Naples ou Milan arrivaient à prendre la première place ou proche de la première place, ben après, elles s'écroulaient toutes seules, après, elles montraient leurs propres limites. C'était une saison où il n'y avait pas beaucoup d'adversaires au niveau de l'Inter en Italie. Et c'est vrai aussi, moi, je pense que les niveaux de l'Inter qu'on était habitué à voir les autres années, on l'a vu seulement pour 20 minutes, un quart d'heure, sur 2, 3, 4 matchs dans l'année. Donc, il faudrait se poser plus des questions de ce qu'ils sont en train de se poser dans ces jours-là. Mais là, il faut aussi fêter un titre que...
Oui, l'heure est à la fête, on se posera les questions après. Ok, Daniele, ça marche. Alors, on va revenir sur le choc anglais. Et pour une fois, peut-être tu vas me dire que je me trompe, hein, mais pour une fois, on a eu un choc sympa. Entre donc Manchester United et Liverpool, avec cette victoire de United finalement, Julien. Et donc, tu as trouvé que c'était un peu à l'ancienne?
Ouais, parce qu'il y avait beaucoup d'intensité. On l'a assez répété. Enfin, je l'ai assez répété dans toutes nos émissions sur la qualité de cette première ligue cette saison, qui est pas vraiment au rendez-vous, qui est pas là. C'est assez décevant finalement quand tu revois encore la défaite de Chelsea aujourd'hui. Par exemple, à domicile contre l'équipe B de Nottingham Forest et qui sont menés 3-0 à la pause. Ouais. Voilà, ça te montre, ça souligne bien. Même si les supporters de Chelsea qui nous écoutent trouvent que je suis toujours trop dur avec eux et que tout va bien clairement dans leur club. Aujourd'hui, ils sont 9e au classement. Ils pourraient finir 12e. Ils sont très très loin du niveau auquel ils devraient être, auquel ils devraient produire et jouer. Et pour moi, ça montre très bien que cette saison, même si tu as des très belles histoires, on parlera de Bournemouth tout à l'heure ou de Brentford, de Brighton, de tout ce qu'on veut, la qualité reste absente. En revanche, hier, c'était quand même très bien, j'ai trouvé, dans l'intensité. Bravo à Michael Carrick et Manchester United, ouais, qui se sont qualifiés déjà pour la Ligue des Champions la saison prochaine après 2 ans d'absence. C'est très bien, parce que c'était pas gagné au moment où il a remplacé Ruben Amorim, mais depuis tout s'est très bien passé. Alors on peut mettre en avant bien sûr le fait qu'il ait replacé Bruno Fernandez en numéro 10, mais ça on l'aurait tous fait, et pour moi c'est ça la clé du succès, plus même que Carrick sur le banc lui-même, parce que c'est pas non plus comme si il avait réinventé tout le jeu d'United et mis en place un truc incroyable qu'on n'avait jamais vu avant nulle part, quoi. Mm-hmm. Pour revenir sur le débat qu'on avait tout à l'heure, mais bravo à eux quand même, et bravo à Carrick, et je pense qu'il aura maintenant, en tout cas il a mérité d'avoir le rôle de façon permanente, et je pense qu'il l'aura cet été quand ils auront fini leur le processus de recrutement pour leur nouvel entraîneur. Donc ça c'est très bien. Ils ont laissé un moment Liverpool revenir en seconde période, parce que c'est deux énormes erreurs, une d'Amad Diallo, une de Sané Lamens, qui offre les deux buts à Sobo là, il y a Gakpo qui fait que Liverpool revient, mais sinon Liverpool était à côté de la plaque complètement, encore une fois. J'ai toujours autant de mal à comprendre pourquoi Arne Slot sera encore sur ce banc là la saison prochaine, parce que pour moi cette saison a montré toutes ses limites et toutes ses et tous ses défauts finalement. Alors il n'est pas aidé forcément par ce qui se passe sur le terrain, par ses propres joueurs à lui, mais même hier, si encore tout n'est pas à jeter, notamment dans la construction du jeu, on a encore vu un Virgil van Dijk catastrophique, j'ai trouvé, notamment sur le but de Sesko, où son marquage et sa défense est inacceptable à ce niveau-là, et encore plus pour un joueur de son calibre à lui. Donc j'ai trouvé ça embarrassant, la façon dont Virgil van Dijk a pu défendre parfois encore hier, mais dans son ensemble c'était pas assez bon de la part de Liverpool et de Slot. Mais voilà, bravo à United, c'est la première fois en 10 ans qu'ils réussissent le doublé sur Liverpool, donc victoire à domicile et à l'extérieur. On a vu une ambiance pour moi à Old Trafford hier magnifique, une des plus belles depuis très longtemps. C'était la 11e défaite en 35 journées pour Liverpool, encore une fois pour, selon moi, ouais, montrer que Slot est vraiment pas l'homme qu'il faut.
Pour l'instant, il est toujours en poste pour l'année prochaine.
Ouais, il devrait. On nous dit que le club brief, comme quoi il devrait être là la saison prochaine.
Ah ouais.
Et donc, dans un sens, je comprends pas pour tout ce que je viens d'expliquer. Mais ce qu'on met en avant du côté du club,
sauf s'il y a encore un renouvellement. Si tu lui changes aussi certains joueurs, tu peux aussi te dire, allez, on peut lui donner sa chance avec un effectif redoublé.
Voilà, en fait, dans le club, on explique que on est en pleine transition et que cette transition, elle allait pas durer juste une saison avec les gros investissements de l'été dernier, qu'il fallait encore investir cet été pour remodeler l'effectif et sûrement en janvier prochain aussi, et que il avait été là. Certes, la saison avait été vraiment compliquée, elle était très difficile, mais qu'on peut trouver des raisons et des justifications pour ça, mais qu'il fallait lui laisser sa chance jusqu'à la fin de la transition pour voir, une fois que l'effectif aurait fait sa transition, pour voir si c'est lui l'homme de la situation ou pas. Pour moi, tu peux pas te permettre de prendre ce risque-là, parce que s'il est pas encore bon la saison prochaine, qu'est-ce que tu fais? T'auras perdu un an de ta transition, tu le viras, tu chercheras un remplaçant, et à ce moment-là, t'auras peut-être encore échoué en Ligue des Champions assez tôt, t'auras peut-être encore rien gagné, parce que cette saison, il y a aucun trophée. Et pour un club comme ça, à mon avis, tu peux pas te le permettre. Mais ça se trouve, il va me faire mentir, et il va être très bon la saison prochaine, ils vont redevenir très forts, et dans ce cas-là, très bien. Il y a pas de problème. Mais là, j'ai un peu du mal à, pour moi, la transition, c'est pas forcément valable par rapport au niveau qu'il a affiché cette saison.
Bon, très bien. Voilà donc pour le bilan de ce Manchester United Liverpool, avec donc
un petit mot juste Jean-Louis, parce que j'en ai pas parlé juste sur Sir Alex. Voilà, ouais, exactement. Il a été emmené à l'hôpital par précaution. On nous a expliqué avant match. C'est vrai qu'on voyait sur toutes les images de la Director's Box, donc la tribune présidentielle, si vous voulez, un petit peu l'équivalent en Angleterre de Old Trafford, où il est toujours là. Et là, il n'était pas là, et on voyait quelques visages un petit peu inquiets effectivement. Et on a vite appris donc qu'il avait été transporté à l'hôpital, mais plutôt de façon par précaution plus qu'autre chose. Donc il a 84 ans maintenant, Sir Alex. Donc on lui souhaite vraiment un très bon rétablissement, un très prompt rétablissement aussi, en espérant que tout va bien aller.
Bon, évidemment, tu nous tiens au courant quand il y a du neuf. La minute allemande, c'est parti.
Zombie Nation, la nation zombie, collectif de DJ allemand. Kern Kraft 4 Under pour le titre, donc l'énergie nucléaire à 400. Je me rappelle bien le vidéoclip, vous avez des microwaves, donc ça doit être ce qui doit faire marcher l'énergie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est qu'après 3 ans, Schalke 04, évidemment le club légendaire d'Allemagne, revient en Bundesliga. Et j'ai choisi cette musique aussi parce qu'ils ont bien fait la fête Plus de 20 000 spectateurs qui ont défilé dans la ville. Et il y avait encore ce matin, vers 11h du matin, le directeur sportif, Yuri Mulder, néerlandais, qui, si ma mémoire ne me fait pas défaut, a joué contre la France à l'Euro 96, lorsque la France a joué les Pays-Bas, et bien qui était encore à la bière. Et il était peut-être à la télé, mais en tout cas, on sentait l'odeur de la bière à travers la télé. C'était assez impressionnant ce qui s'est passé. Tout le monde se félicite évidemment parce que Schalke doit être en Bundesliga, c'est évident. Pour rappelez-vous qu'il y a une quinzaine d'années, ils étaient régulièrement en 8e, quand c'est pas en demi-finale en 2011 de Ligue des Champions. Il y a juste un petit problème, il y a encore 150 millions d'euros de dettes, il y a 100 millions d'euros de capitaux propres négatifs, donc ça veut dire qu'il y a une restructuration très très importante au club. Et le plus difficile commence, c'est pour ça que j'ai aussi choisi cette chanson de Nation Zombie, c'est que c'est pas gagné en Bundesliga l'année prochaine, et je pense qu'on n'est pas prêt de revoir Schalke non plus en haut du classement, même si ça a très très bien travaillé cette saison. Donc bravo à Schalke, tout le monde est content, même Dortmund qui nous a expliqué qu'ils avaient presque, ils leur avaient presque manqué. Donc on aura le derby l'année prochaine et Schalke est en Bundesliga et ça fait plaisir.
Mais pas de là, les imaginer jouer un rôle non plus en...
Je pense que là, ça va être à court terme. Ouais. Déjà, on n'attendait pas à ce qu'ils montent cette saison en seconde division, donc ça va être compliqué. Par contre, il y a Miron Muslić, le coach, qui est assez impressionnant. Alors là, c'est du football défensif, hein. C'est très agressif, c'est très spécial. Dzeko a 40 ans, on ne sait pas s'il va prolonger. Ouais. Aouchich est venu lors du mercato hivernal, il a fait une très, très, très bon 6 mois. Ljubicic a déjà le niveau Bundesliga. Karaman, c'est ce que j'appelle un 1.5, un joueur qui est capable d'être attaquant et 9,5 et qui est aussi toujours entre la seconde et la première division. Il y a des petits jeunes comme Ayan El-Fadzoui qui sont l'une des révélations de la saison en seconde division, mais je pense qu'ils vont devoir sortir le chéquier quand même.
Bon, très bien, mais c'est une bonne nouvelle quand même. Pour le foot allemand, le retour de Schalke en Bundesliga dans une seconde. Restez avec nous, les drôles de dames, et notamment Edgar Groslot vous parle des vacances de Kylian Mbappé qui crispe l'Espagne. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Jean-Louis Tour.
20h46 sur RMC, les drôles de dames sont là. Edgar Groslot, Paulo Breitner, Julien Laurence et Daniele Moussiala. Après 21h, Manoussia, pardon. C'est Jamal Moussiala et Daniele Manoussia, autant pour moi. Après 21h, l'autre demi-finale, retour de Ligue des Champions entre Arsenal et l'Atlético de Madrid. Mais tout de suite, Edgar, les vacances de Mbappé. Et déjà pourquoi il avait autant de vacances alors que le Real joue?
Alors, il est blessé, rappelons-le, et ces vacances-là, ce séjour qu'il a passé en Italie, étaient autorisés par le club. Le club le répète, c'était autorisé parce qu'il jouait pas, parce qu'il avait des jours de libre, parce que aussi les joueurs qui sont blessés peuvent suivre aussi des programmes, comme ça a déjà été le cas d'ailleurs pour Kylian Mbappé par le passé à distance. Il était de retour au centre d'entraînement ce lundi. Maintenant, même si c'était autorisé par le club, ça met quand même le Real Madrid dans l'embarras. Bon, on va pas se mentir. Son avion est rentré à Madrid quelques minutes avant le match de ses coéquipiers face à l'Espagnol de Barcelone. T'es à une semaine d'un classico où il y a de grandes chances que ton rival historique soit sacré devant tes yeux champion d'Espagne. T'es censé être la superstar du projet. Évidemment que ça donne une mauvaise image, que ça interroge énormément.
Mais là, ça embête qui? Donc les supporters, les éditorialistes, au club peut-être, il y a des trucs qui circulent.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il aurait fait à la place?
Non mais ça embête tout le monde. Alors moi je suis d'avis à ce que si le gars il a une journée de libre, il fait ce qu'il veut. Et c'est donc pour ça évidemment que le Real Madrid dit bon bah il fait ce qu'il veut, il était libre. Maintenant, je pense que Kylian Mbappé n'est pas bête, il sait très bien l'image que ça peut renvoyer, il sait très bien que surtout avec sa relation qui est extrêmement médiatisée, etc. Il sait très bien qu'il va y avoir derrière, il peut y avoir des polémiques, etc. Il est pas bête, je pense qu'il a pesé le pour et le contre et qu'il s'est dit hey, moi, je vais vivre ma vie, je suis libre, j'ai le droit, donc je vais aller profiter de mon week-end en Italie. Et sur ça, j'ai envie de dire que on peut pas, ça c'est pas quelque chose qui est critiquable. Maintenant, effectivement, ça met le club dans l'embarras et surtout, j'ai l'impression le vent qui est en train de tourner autour de Kylian Mbappé et il est en train de tourner extrêmement fort, extrêmement rapidement. Et là, clairement, il est en train de se prendre, une tempête en pleine gueule, voilà, une tempête en pleine face. Tous les débats dans tous les médias espagnols tournent autour de lui ces derniers jours, que ce soit pour dire que c'est pas l'attitude d'un leader, pour que ce soit pour dire qu'un blessé devrait pas être à l'étranger, même si il y a d'autres joueurs qui l'ont fait plus discrètement depuis la saison dernière et qui ont pas été vus et qui sont pas Mbappé non plus, il y en a même qui ont été vus et ça a dérangé personne parce que c'est pas Kylian Mbappé, mais voilà, et Kylian Mbappé c'est toujours différent. Et aussi il y a un vent qui tourne au club parce que on est embarrassé par ça, on est embarrassé aussi par le fait que aujourd'hui il y a tout ça autour de Kylian Mbappé, mais il y a aussi eu cette situation très gênante pour le club par rapport au mauvais diagnostic sur son genou. Il y a aussi eu tous ces débats autour de la planification sportive et d'une potentielle erreur de la direction d'avoir ramené Kylian Mbappé, de l'avoir associé à Vinicius.
Et Edgar, moi j'ajoute un truc, contre l'Espagnol on l'a vu, mais quand il n'est pas là, bah, on retrouve des schémas Vinicius-Bellingham qui sont pas là quand lui est présent. Ouais.
Et tout ça vient se mélanger et t'as des débats sur le Real qui joue mieux sans Mbappé, le Real qui ci, le Real qui ça, avec Mbappé qui est toujours dans la discussion. Et aussi, il y a une autre réalité, c'est que dans le vestiaire, par exemple, un joueur comme Jude Bellingham qui a une forte personnalité, il y a eu des moments où il y a pu avoir aussi des frictions avec Kylian Mbappé. Alors, comme il y a dans tous les vestiaires, mais Kylian Mbappé n'est pas quelqu'un aujourd'hui au Real Madrid qui, par exemple, comme Cristiano Ronaldo a pu l'être par le passé, quelqu'un qui met tout le monde d'accord parce que, peu importe sa personnalité, il te fait gagner les grands matchs et donc il a ce respect qu'il a gagné au fil de son travail et de ses années et de ses succès au Real Madrid. En fait, Kylian Mbappé, il a pas ça. Et donc forcément, ça peut créer des tensions et forcément, pour ses coéquipiers, on peut comprendre que parfois ça peut créer des interrogations, ça peut créer, c'est pas des conflits, hein, mais ça peut créer forcément des petites tensions parce que dans tous les vestiaires où il n'y a pas de victoire, où il n'y a pas de succès collectif, il peut y avoir des petites tensions. Et donc tout ça fait que aujourd'hui, tu regardes le tableau du Real Madrid et tu regardes où on est Kylian Mbappé après 2 ans, c'est quand même pas du tout la même histoire qu'il y a 6 mois, et que ce soit sur le terrain ou en dehors, aujourd'hui, la situation de Kylian Mbappé est un petit peu crispante à Madrid et il y a très très peu de choses, on va dire, positives qui sortent ces derniers jours sur Kylian Mbappé en Espagne. Et ça, c'est nouveau et ça date de ces derniers mois, ces dernières semaines.
Et toi, Julien, je t'entendais, tu comprends pas qu'on fasse ce reproche-là, il fait ce qu'il veut en jour de repos?
Ouais, je sais pas, après il serait allé à l'entraînement, il aurait fait ses soins et il serait rentré
chez lui. C'est l'image après, c'est une question d'image.
Oui, d'accord, c'est mais ça. Comme l'a dit Arbeloa, on lui a posé la question. On lui donne des jours de repos, sur les jours de repos, il peut faire ce qu'il veut. À partir du moment où il n'avait pas à venir au centre d'entraînement, il serait resté chez lui, quoi, dans sa maison. Ou alors il fallait aller en Espagne, aller en vacances en Espagne quelque part, ou alors pas aller en vacances du tout pour se reposer. Enfin, je comprends pas trop, en fait. On a tous eu dans nos pays, même dans les grands clubs, des joueurs blessés qui ont eu le droit à un moment d'avoir 3 ou 4 jours de repos et de faire ce qu'ils voulaient, quoi. Donc, j'ai un peu de mal. Il était là pour le match. Tant qu'il revient pour le match du week-end et qu'il est là en tribune. Ah oui. Ou dans sa loge, quoi. Je vois pas trop personnellement où est le problème.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Julien, et ce que je disais au début sur le fait que si le gars il est libre, il est libre. Mais je peux comprendre aussi qu'un supporter du Real Madrid qui pendant 7 ans a attendu l'arrivée d'un gars qui est censé être la star de ton équipe qui te fait tout gagner, ça t'embête un peu que 2 fois en 3 mois, il soit à l'étranger avec des paparazzis qui le prennent en photo tout le temps, que son avion arrive moins d'un quart d'heure avant le coup d'envoi d'un match de ses coéquipiers et que ce soit une semaine avant le Classico ou au club. En fait, le message officieux ces derniers jours, c'était toujours de faire penser à la presse que c'était un compte à rebours pour revenir au Classico et que donc il mettait toutes les chances de son côté pour essayer de revenir au Classico. Partir à l'étranger, ça veut pas dire qu'il va revenir moins vite, soyons très clairs, et on a déjà
d'ailleurs il sera là pour le Classico
avec lui, mais on ne sait pas. Pour l'instant, c'est l'incertitude. Et c'est cette incertitude qui rend la question aussi plus compliquée, plus sensible. Mais on peut comprendre aussi, si on se met à la place des supporters, que ça peut déranger. Voilà, quand ta vie, c'est le Real Madrid et que d'un coup, ta star, elle n'a pas le même comportement que d'autres stars ont eu par le passé, ça peut mal coller. Et l'histoire d'amour, elle peut être un peu moins belle avec ce joueur-là.
Bon, voilà pour Mbappé. On va passer à la Juve pour parler de la course à la Ligue des Champions en Italie. Daniele, tu voulais nous parler de la Juve et de ses problèmes d'efficacité qui pourraient coûter cher.
Oui, mais c'est les problèmes dont il a parlé Spalletti, parce que la Juventus, elle a fait un match contre une équipe qui était déjà reléguée, c'est-à-dire Verona, qu'ils jouaient par contre pour l'honneur, comme on dit. Ils ont les 76% de la possession. Ils ont fait plus de 2,6 XG, mais il n'y a pas eu de grosses occasions. Ils ont marqué leur but parce que c'est fini un partout avec un coup franc de Vlahovic. D'ailleurs, un coup franc sur lequel il y a, moi je pense, une boulette de gardien que voilà, il choisit un poteau mais il se rate. Il y avait eu le but de Verona sur une boulette de Bremer à la défense qui perd un ballon qui veut passer à Kalulu. Il la passe dans les pieds de l'attaquant de Verona. Et donc Spalletti, à la fin du match, il a parlé et des erreurs dans les jeux de construction des défenseurs et du manque de force en attaque. Parce que, on le sait, on en a déjà parlé dans plusieurs semaines, mais Spalletti, il aime pas trop Jonathan David. Il dit que c'est un joueur technique, qui, ça va quand il faut attaquer dans les espaces, quand il faut faire, en gros, il faut rentrer avec la balle, avec les passages dans la surface de réparation et dans les buts. Mais lui, il aime les attaquants qu'ils sont capables de se bagarrer avec les défenseurs. Vlahovic, il a fait ça, mais avec son chaos d'habitude. Il est capable de gagner un duel et après perdre la balle. Il frappe de 35 mètres et il envoie la balle dans les tribunes. C'est un joueur très, très chaotique en ce moment, dont on comprend pas très bien les niveaux. Spalletti, il a dit qu'il faut un peu plus de qualité dans la partie du terrain qu'en Italie on appelle la partie de la rifinitura, c'est-à-dire là où il faut un peu refinir les jeux, c'est-à-dire jouer la passe décisive quoi. Il a fait reposer les dernières semaines, il a bien joué, mais ils disent il est un peu...
Oui, c'est de la qualité ça quand même.
C'est beaucoup de qualité, c'est, moi je pense c'est peut-être le meilleur joueur du championnat, mais il est un peu excentré et surtout la Juventus elle a du mal quand elle a en face d'elle des équipes qui baissent la ligne défensive, qui font mur autour de la surface, et là elle a du mal à percuter et ils disent il n'y suffit pas parce qu'il est doublé, triplé et il manque un peu d'association avec d'autres joueurs comme c'est ça, ou que c'est l'autre joueur techniquement très présent, qui se prend beaucoup de responsabilités. Il est loin, même Zegrova, quand il est rentré en deuxième mi-temps, il est loin des Ildiz, donc il n'arrive pas à avoir des connexions autour de lui. Moi, je pense que c'est dommage que Spalletti ne fait pas jouer Hadžić, qui est très jeune, mais on comprend pas son niveau, mais il a montré des bonnes choses aussi, une belle frappe de l'extérieur de la surface, qui est une solution toujours qu'on peut explorer. Donc voilà, la Juventus, elle a réouvert en gros la lutte pour la Champions League. Là, si la Roma est en train de jouer maintenant, pendant qu'on parle, contre la Fiorentina à domicile, si la Roma elle gagne, elle va à un point de la Juventus et il y a comme pas loin.
Alors là, si j'ai
si je regarde les matchs des prochaines semaines, la Juventus elle a les calendriers les plus difficiles, on va dire.
Lecce, Fiorentina et Torino.
Voilà, ils vont jouer à Lecce, c'est-à-dire dans les Pouilles, la semaine prochaine, contre une équipe que la Cremonese elle a perdu contre la Lazio. Donc, Lecce, ils ont plus 4 sur la Cremonese pour se sauver. S'ils gagnent contre la Juventus, ou s'ils font même match nul, ça vaut une partie de Serie A pour eux. Donc, ils vont jouer les matchs à fond. Après, ils ont la Fiorentina, qu'ils ont une haine pas possible pour la Juventus. C'est presque pire du derby, que c'est la semaine d'après contre le Turin.
Oui, c'est vrai, donc, c'est vrai. C'est pas cadeau, ça. C'est pas cadeau tout ça. Pour la Juve et la fin de saison en Serie A. Alors, on suit bien sûr donc Roma-Fiorentina. Ça fait 10 minutes. Sur les autres pelouses en Europe, il y a évidemment le match de Manchester City à Everton. Ça commence dans 2 minutes. Match crucial pour aller chercher le titre pour Manchester City. Et puis, match important en Espagne pour la course au maintien du FC Séville qui reçoit la Real Sociedad. Coup d'envoi également dans quelques secondes. On revient dans les drôles de dames de Génération After dans quelques secondes pour donc la demi-finale entre Arsenal et l'Atlético de Madrid, deux équipes qui ont gagné ce week-end avec un retour important côté Gunners. On en parle avec nos drôles de dames. Restez avec nous sur RMC, à tout de suite.